Il a fallu trouver une façon originale de fêter quelqu'un qui a l'habitude, ou une institution qui a l'habitude de prêter des livres. On s'est dit que la meilleure façon de le faire était d'aller chercher dans nos propres livres. Et parmi ceux qui sont les plus beaux, ceux qui sont les plus précieux, il y a précisément ces guides de voyage et ces récits de voyage aussi. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi ces livres-là.
Alors comment vous avez fait pour sélectionner les extraits? Parce qu'il devait y en avoir beaucoup, hein.
Alors il y en a beaucoup et pas beaucoup en même temps, parce que finalement, les extraits qu'on a donnés un peu pour attiser, pour donner le goût aux personnes de venir, sont souvent des extraits du 19e siècle, où là, on raconte un voyage, on raconte la peur qu'on a quand on traverse les gorges de cour, quand on a des précipices à droite et à gauche, quand le cheval va s'affoler. C'est l'expérience qu'on vit ou que le voyage revit. Mais finalement, on se retrouve toujours dans les mêmes lieux et on a souvent le même type de récit. Et pour sélectionner les livres, on a pris simplement ceux qu'on avait, les plus beaux. Et pour sélectionner les extraits, on a pris ceux qui étaient les plus percutants.
Alors, il s'agit beaucoup de visiteurs venant de France. Alors, en général, au 19e siècle, quelle image avait le Jura bernois pour nos voisins?
Alors, les visiteurs viennent de France, viennent d'Angleterre, viennent d'Allemagne, viennent de l'Europe entière. Simplement, ce qui est particulier, c'est que le Jura bernois n'est quasi pas visité. Il ne fait pas partie des grands circuits touristiques. Les Européens qui viennent en Suisse, à ce moment-là, vont surtout visiter les Alpes. Et c'est par des chemins de traverse, finalement, souvent par le chemin qui mène de Bâle à Bienne, c'est le titre récurrent de plusieurs livres. Et par ce chemin-là, les gens, les visiteurs vont venir. Et quelle image les visiteurs en ont? C'est des images qui sont souvent prises par des lieux précis. C'est les gorges de Cour, c'est la pierre Pertuis à Tavannes, et puis c'est la Neuville par l'île Saint-Pierre qui avait été visitée par où Rousseau a habité.
Vous avez cité trois endroits. Est-ce qu'on peut parler de dépaysement dans certains récits?
Alors on peut parler de dépaysement, oui, même pour nous quand on les lit aujourd'hui, quand on lit la traversée des gorges de Cour, il y a quelque chose d'extraordinaire. On ne le traverse plus aujourd'hui de la même façon. Alors parce que au 18, au 19e siècle, on a un regard qui est du 18 et du 19e siècle. Donc, et en particulier, on a ce regard du romantique qui va traverser un lieu sauvage. Mais c'est aussi un lieu où il faut du temps, où on prend le temps. Et quasi tous les voyageurs qui décrivent ce voyage dans les gorges disent « Mais il faut descendre du char dans lequel on est, il faut aller à pied, il faut s'arrêter, il faut prendre le temps d'aller et de voyager. »
Parce que justement, dans un des extraits, on a l'impression que c'est une aventure de traverser ces gorges de Cour, et puis que la personne qui a écrit ça, elle a eu peur pour sa vie, en fait.
Alors la personne, bon, c'est un récit particulier, hein, d'une peintre, Vigier Lebrun, qui est elle, du 18e siècle, donc, où son cheval s'emballe dans les gorges de Cour. Donc le cheval qui tire le char sur lequel elle se trouve. Et comme il y a des précipices à droite, des précipices à gauche, le cheval a peur. Elle voit vraiment la fin de ses jours arriver. Arrive un paysan du coin qui va les sauver. Et là aussi, on est de nouveau dans une imagerie où c'est le bon sauvage qui vient sauver cette dame de la bonne société, française.
Quand on lit les quelques extraits sur votre site, les extraits disponibles, on peut voir que le vallon de Saint-Imier est principalement rythmé par la religion et l'horlogerie. Alors, c'est exact ou c'est un peu réducteur, hein?
Alors, c'est toujours réducteur. Et les guides de voyage, aujourd'hui encore, ce qu'on prend, les guides du routard qui nous envoient à Barcelone, au Vietnam ou ailleurs, sont toujours réducteurs. Et c'est la même façon de regarder un pays de façon réductrice qui se retrouve dans ces guides de voyage.
Parce que qu'est-ce qui faisait que ça se marquait à ce point? On avait l'impression que tout le monde était horloger ou
Alors, le vallon de Saint-Imier au 19e siècle est effectivement un vallon. En tout cas, Saint-Imier et plusieurs des villages autour sont effectivement des villages horlogers. La population a à s'est multiplié, à exploser, et toutes les infrastructures sont faites pour ce monde horloger. Reste que c'est une région qui a encore une immense partie agricole et qui a des artisans. Simplement, il y a aussi une façon d'attirer le regard en vantant cette horlogerie. Et c'est aussi quelque chose dont on peut prendre conscience, c'est que le patrimoine industriel est un argument touristique, un argument pour faire venir des gens, pour faire que les gens regardent ce qui se passe dans ce vallon de Saint-Imier.
Alors dans un autre extrait, mais cette fois du côté de la Neuville, une voyageuse française, Madame Gauthier, raconte que les habitants sont étrangers à toute forme de commerce et ne vivent que de leurs vignes. Alors ça aussi, est-ce que c'est exact? Et puis qu'est-ce qu'on veut dire par étranger à toute forme de commerce?
Alors là aussi, on est dans une ville, la Neuville, qui n'est pas celle du 19e siècle, hein, dans l'extrait qu'on a choisi, mais du 18e siècle, qui est encore très très peu en lien. Et puis c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait du paysan qui vient sauver la dame d'un drame dans les gorges de Cour. On a l'image du bon sauvage. Et on veut perpétuer dans cette Suisse l'image d'un lieu hors du monde, enfin d'un nom, d'un lieu qui est presque un lieu d'origine.
Les personnes qui assisteront ce soir à la lecture, est-ce qu'elles reconnaîtront les régions à travers ces textes? Par exemple, si on ne les nommait pas, on ne disait pas « c'est les gorges de Cour », est-ce qu'elles arriveraient à reconnaître ces lieux?
Alors je pense pour certaines, oui, c'est clair. Quand on a la pierre de Perpétuit, on a toujours, aujourd'hui encore, les mêmes descriptions. Pour les gorges de Cour, quand on regarde les Michelin aujourd'hui ou le Routard, on peut avoir les mêmes expressions. Pour d'autres, et c'est là que ça devient intéressant, on a une découverte. On a par exemple la description à Rechnet des bains de Rechnet. Qui va voir ces bains de Rechnet aujourd'hui, alors que dans des descriptions de la fin du 18e ou du début du 19e siècle, on a encore la description des bâtiments qui sont délabrés au milieu d'un paysage tout en ruine qui va impressionner le voyageur.
Sylviane Messerli, merci d'être venue dans nos studios. On rappelle que vous êtes la directrice de la Fondation Mémoire d'ici et que vous organisez ce soir à la salle du Rameau une lecture intitulée « Voyage par les livres anciens » en célébration des 25 ans de la bibliothèque de Saint-Imier. On vous souhaite une belle journée.
Merci beaucoup, à vous aussi.